secrétaire général va vous donner un aperçu général et vous parler des réunions qui ont eu lieu depuis 2 jours. Et ensuite, si vous avez des questions à lui poser, il sera tout prêt à y répondre. Bonjour à tous. Nous venons de conclure 2 journées particulièrement fructueuses avec des décisions importantes qui portent sur notre sécurité. Nous venons décider d'inviter le Monténégro à démarrer les pourparlers d'adhésion afin de devenir notre 29e membre de l'Alliance. Nous sommes convenus de continuer d'assurer notre présence de formation, de conseil et d'assistance auprès des forces afghanes avec quelques 12 000 hommes et femmes au cours de l'année 2016. Nous avons également lancé des discussions et des travaux visant à assurer le financement des forces afghanes jusqu'en 2020. Nous avons intensifié nos efforts visant à faire face aux défis en provenance du Sud, avec d'autres mesures qui ont été prises afin d'aider la Turquie, qui se trouve en première ligne de cette région particulièrement instable. Davantage de soutien à nos partenaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous n'avons pas non plus fait la passe sur l'Est. Nous avons insisté sur notre volonté de continuer à apporter notre soutien politique et pratique à l'Ukraine. L'OTAN s'emploie à favoriser une issue pacifique et diplomatique au conflit. Tout en reconnaissant que la mise en œuvre des accords de Minsk progresse quelque peu, il subsiste néanmoins un risque réel de reprise de la violence. Les séparatistes soutenus par la Russie n'ont pas encore procédé au retrait de leurs troupes et de leur équipement. Les groupes illégaux dans l'est de l'Ukraine ne sont pas encore désarmés et l'Ukraine n'a pas encore réussi à reconquérir le contrôle de ses frontières. Les accords Minsk constituent la seule voie possible à une solution politique au conflit. Ces accords doivent être mis en œuvre dans leur totalité par toutes les parties concernées. Hier soir, l'Ukraine n'est pas seule. Nous aidons l'Ukraine dans un certain nombre de domaines afin de moderniser son système de commandement et contrôle, les capacités cyber et logistiques. Ces projets ont une véritable incidence sur la capacité de l'Ukraine à pouvoir se défendre elle-même et à pouvoir poursuivre et renforcer ses réformes des institutions. L'Ukraine continue à mettre en œuvre des réformes ambitieuses. Il est absolument indispensable que l'Ukraine poursuive et s'engage dans cette voie. Nous sommes prêts à l'aider à cet égard. Hier soir, nous avons discuté également de notre relation avec la Russie. Les défis que posent les actes de la Russie dans la zone euro-atlantique ne disparaîtront pas de sitôt. Les alliés ont exprimé qu'ils regrettaient le manque de transparence, et cela depuis une dizaine d'années. Nous sommes convenus que la priorité pour nous actuellement est d'œuvrer pour adapter nos relations à l'avenir. Les incidents de la semaine dernière cet avion russe montrent bien qu'il y a lieu d'être vigilant. C'est la raison pour laquelle nous redoublerons d'efforts pour cultiver la transparence et réduire le risque. Et tout cela grâce à des efforts soutenus afin d'arriver à un accord l'année prochaine sur une actualisation de fonds sur le document de Vienne. Ceci est particulièrement important et il s'agit là d'un instrument utile nous permettant d'assurer l'ouverture et la transparence s'agissant des activités militaires, y compris l'observation et la notification des exercices. Deuxième élément, nous allons travailler sur d'autres propositions portant sur la transparence et la réduction du risque. Il faut éviter les malentendus, les interprétations erronées, des incidents qui nous dégénèrent et nous échappent totalement. Défendons à la fois nos alliés et recherchons la transparence de part et d'autre s'agissant de ces activités militaires. Le monde est devenu plus difficile à prévoir. Il nous faut donc actualiser et adapter les mesures assurant la sécurité européenne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis prêt à y répondre. Plus One TV, second row.
One Person TV, à la deuxième file. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire Général. L'Ukraine n'est pas, bon, la Macédoine, ou plutôt le Monténégro, mais est-ce que nous pouvons nous attendre à des messages encourageants, en tout cas l'année prochaine? Et puis, dans la Commission Ukraine, sur les réformes de l'Ukraine, qu'est-ce que vous prévoyez comme réformes? En été, nous attendions l'évolution de la réforme des forces armées et maintenant, il semblerait que le gouvernement ukrainien n'ait pas accompli tous ses, fait tous ses devoirs dans ce domaine. Qu'en pensez-vous? Et troisièmement, est-ce que vous voyez, disons, un futur pour Minsk ou bien un remplacement de Minsk qui ne fonctionne pas? Secrétaire général, nous venons de tenir une réunion fort fructueuse de la Commission auto-Ukraine et le ministre Pavlo Klimkin nous a donné un aperçu des chantiers, des travaux en cours et la réunion elle-même était un signal, un grand message de solidarité envers le peuple ukrainien de la part des alliés et de l'Alliance collectivement. Il est donc important de souligner que nous allons continuer de donner un soutien et politique et pratique à l'Ukraine. Et d'ailleurs, au courant de la réunion, certains alliés ont déjà annoncé l'augmentation de leur soutien en s'engageant à contribuer aux différents fonds d'affectation spéciale et qu'ils ont appelé à financer notre collaboration avec ce pays. Dans le domaine de la logistique, commandement-contrôle, la cybernétique, tous ces domaines sont importants pour l'Ukraine, chose qui a été soulignée pendant la réunion. Par ailleurs, les alliés travaillent bilatéralement avec l'Ukraine en matière de formation, conseil, assistance aux forces ukrainiennes, ce qui renforce le travail collectif de l'Alliance. Et donc, ce thème se trouvera toujours, aura toujours une place privilégiée dans nos travaux et nous allons continuer dans ce sens. Ce qui est essentiel, c'est de progresser et d'avancer dans la mise en œuvre des accords de Minsk, c'est-à-dire le retrait des armements lourds, la mise en œuvre complète du cessez-le-feu, l'échange de prisonniers. Et un accès complet, sans entrave, aux observateurs de l'OSCE pour pouvoir surveiller et contrôler la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc nous continuons d'appuyer une solution négociée à la crise. Oui, en fait, notre soutien à l'Ukraine est un soutien qui se fait à l'heure actuelle, et qui va inspirer les préparatifs du sommet de juillet. Je suis sûr que le sommet va renforcer le soutien politique. Bon, bien sûr, je ne peux pas vous détailler quelle forme cela prendra, c'est un petit peu tôt. La Kiev Post, qu'en est-il de la création de du Conseil OTAN Russie et comment est-ce que ceci peut restituer la transparence et la prévisibilité, étant donné que l'OTAN a reconnu que la Russie déstabilise l'Europe et différents pays de l'OTAN. L'OTAN, par ailleurs, a constaté que la Russie viole la souveraineté de plusieurs pays, cinq différents frontaliers, conflits frontaliers avec des pays de l'OTAN. Comment est-ce que vous justifiez le COR, Conseil OTAN-Russie? Après la crise, le déclenchement de la crise en Ukraine, nous avons décidé au printemps de l'année dernière de mettre fin à la coopération pratique avec la Russie, mais de maintenir le dialogue politique avec la Russie. Le Conseil OTAN-Russie, le COR, fait partie de ce dialogue. Il n'a jamais été stoppé. Il est toujours possible de reprendre les travaux. Nous avons d'ailleurs tenu deux réunions du Conseil OTAN-Russie après le déclenchement de la crise en Ukraine. Donc, ou plutôt, il ne s'agit pas de reprendre comme si de rien n'était, non, ni de faire quelques hypothèses que ce soit, non. Il s'agit tout simplement d'utiliser les outils à notre disposition, entre autres le Conseil OTAN-Russie. Nous allons voir la possibilité de tenir une réunion d'un ordre du jour. Pour l'instant, je dois vous dire que le Conseil OTAN-Russie n'a jamais été arrêté ni dissous. Nous n'avons jamais mis fin au dialogue politique avec la Russie. Ce dialogue se poursuit dès le début de la crise. Ce que nous avons suspendu, c'est la coopération pratique. Julian Brown, Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, la Russie a dit aujourd'hui que l'élargissement vers le Monténégro, ou l'adhésion du Monténégro plutôt, pourrait donner lieu à une riposte, des mesures. Qu'en pensez-vous, monsieur le secrétaire général? Et puis, comment est-ce que vous équilibrez ou trouvez l'équilibre entre les alliés qui veulent une ligne plus dure vis-à-vis de la Russie, en termes de dissuasion, et ceux qui prônent un dialogue? Il semblerait qu'il y ait deux approches différentes vis-à-vis de la Russie. Alors, comment est-ce que l'Alliance traite ce clivage? Eh bien, pour le Monténégro, nous avons décidé d'inviter le Monténégro à lancer les pourparlers d'adhésion, les négociations d'adhésion en vue de son adhésion. Cette décision ne concerne pas la Russie. C'est une décision qui concerne le Monténégro et l'OTAN. Donc, un pays, le Monténégro, et 28 pays, les alliés, en vue de son adhésion, l'adhésion de ce pays. Et ceci n'est pas dirigé contre la Russie. C'est une décision qui est prise pour des raisons de sécurité des 28 alliés et du Monténégro. Voilà donc les motifs. D'ailleurs, c'est un principe fondamental que chaque pays a le droit souverain de décider de sa voie, de son destin, y compris les modalités sécuritaires le touchant. Et aucun pays n'a le droit de s'ingérer dans ce processus de décision. Voilà, donc cette décision concerne les 28 pays de l'OTAN et le Monténégro. Et les autres pays sont priés de s'abstenir. Pour la dissuasion et le dialogue. Eh bien, hier, nous avons parlé exactement de ce thème. Les alliés sont unis. Il n'y a aucune contradiction entre une défense et une dissuasion solide et le dialogue politique. En fait, le message est plutôt va dans l'autre sens. Du moment que nous assurons la dissuasion, nous pouvons assurer le dialogue politique. Et voilà pourquoi nous adaptons notre posture au nouvel environnement sécuritaire en rendant plus robuste notre défense, nos forces armées, et en les rendant plus réactives et préparées. Nous continuons donc à renforcer notre défense collective. Et en même temps, nous cherchons un rapport plus coopératif et constructif avec la Russie, parce que nous pensons que la Russie également a intérêt à ne pas confronter l'OTAN, plutôt collaborer avec nous. Mais l'engagement politique doit se faire sur une base, à partir d'une position de force. Et j'ajoute ceci. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu mon expérience en tant que Norvégien. La Norvège est un petit pays qui partage une frontière avec la Russie et l'Union soviétique auparavant. Nous avons pu collaborer avec la Russie, dialoguer sur différents thèmes à cause de notre appartenance à l'OTAN. Voilà pourquoi nous avions pu assurer un engagement, une coopération politique avec la Russie dans la pêche, les frontières, l'environnement et que sais-je. Car nous étions membres de l'OTAN, car nous étions forts. La Géorgie. Monsieur le secrétaire général, nous avons lu la déclaration et nous voyons que la Géorgie deviendra membre de l'OTAN avec le plan d'action pour l'adhésion, le MAP, c'est la décision de Bucarest qui est encore valide. Et la Géorgie a tous les outils pratiques nécessaires pour se préparer à une adhésion. Alors, monsieur le secrétaire général, ceci veut-il dire que nous avons encore besoin du plan d'action pour l'adhésion, MAP, ou est-ce que nous avons au contraire tous les outils à notre disposition? Secrétaire général. Nous avons exactement la même position que celle à laquelle vous avez fait référence dans la déclaration qui a été agréée par les 28 alliés. Nous reconnaissons que la Géorgie accomplit d'importantes avancées. Nous reconnaissons et nous confirmons les décisions prises dans le passé. Par exemple, l'importance du plan d'action pour l'adhésion, le MAP, et ceci a toujours été notre approche. Voilà, donc, nous disons exactement ce que vous trouvez dans la déclaration. Ce que je veux dire, c'est que le MAP, plan d'action pour l'adhésion, fait partie des critères nécessaires pour le travail que nous poursuivons avec la Géorgie. Dernière question. La chaîne de télédiffusion géorgienne. Il est dit dans le communiqué que pour le sommet de Varsovie, nous allons identifier des façons supplémentaires pour multiplier les efforts pratiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que la Géorgie doit attendre du côté du sommet de Varsovie? Secrétaire général. Nous allons continuer à travailler, collaborer avec la Géorgie. Nous avons beaucoup accompli en matière de la réforme, les réformes que mène la Géorgie dans l'état de droit, dans la modernisation de ses institutions de défense et d'autres. Et nous continuons à aider la Géorgie à moderniser ses forces armées, ses structures de défense. Ce paquet substantiel reste à la clé. Et nous allons continuer à poursuivre le dialogue pratique et politique plutôt. Donc ce sont différents axes qui permettent à la Géorgie d'avancer vers une adhésion. Naturellement, nous allons garder à l'œil les progrès de la Géorgie et encore une fois, ce serait un petit peu trop tôt de vous dire quelles seront nos décisions en juillet, mais nous allons continuer à collaborer avec la Géorgie de façon très rapprochée pour que la Géorgie continue sur ses avancées. Merci beaucoup. Ceci conclut cette presse-conférence qui conclut la ministérielle. Merci beaucoup.